Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis content de vous voir ce matin. Hey, bienvenue à la maison, bienvenue chez vous. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, on espère que vous vous sentez vraiment chez vous. Et puis j'ai envie de dire bienvenue à la maison aussi à nos 5 jeunes baptisés de la semaine passée, fraîchement! Yes, fraîchement sortis de l'eau! Super. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou peut-être que t'es pas très familier à ce qui se passe dans les églises, tu te dis c'est quoi ça, un baptisé? Ben, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, non pas par religion, non pas par éducation, mais par conviction tout simplement. Et le baptême d'eau est ce moment qui signifie ce passage entre je crois que Jésus est mort pour moi, donc je m'identifie à sa mort en allant sous l'eau et je ressors de l'eau et je m'identifie au fait qu'il est ressuscité aussi pour moi. Et donc nous avons 5 jeunes personnes qui ont choisi de suivre pleinement Jésus avec tous les défis que ça comporte. Ça demande du courage. Vous savez, pour être chrétien, ça prend quand même une dose de courage. Souvent, on va dire, oh, les chrétiens, c'est pour les mauviettes, machin, ou pour ceux qui sont malades ou qui ont des problèmes de dépendance. Non, suivre Jésus, c'est quand même pas quelque chose si évident, ça, si facile, mais ça change tellement ta vie. Donc, suivre Jésus n'est pas une promesse sur le fait que la vie va être plus facile, mais c'est une assurance que la vie ne sera pas vécue tout seul, mais accompagnée par Dieu lui-même à travers Jésus. Nous poursuivons ce matin notre troisième message sur cette thématique, cette série intitulée « L'art de la prière ». L'art de la prière. Une série, vous savez, c'est comme, faut le voir comme une construction. On a eu l'introduction de ce message, de cette série, une introduction, c'est vraiment, on déroule les plans, on regarde le chantier, on dit, OK, il y a ça, on va faire intervenir tel corps de métier, puis à tel moment, on va faire ça, c'est l'introduction. Et après ça, on a le message, on arrive dans les fondations, et au fur et à mesure, on élève, en fait, l'édifice. Et c'est un petit peu le but recherché à travers une série comme celle-ci, c'est de couvrir plusieurs volets, plusieurs aspects sur un sujet, et notre sujet pour cette série, vous l'avez deviné, il s'agit de la prière. Alors nous sommes encore dans le début de cette construction. Et ce que nous voulons faire ensemble à travers cette série, nous avons vu il y a quelques semaines de cela, nous avons découvert les origines de la prière. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter ensemble pour voir comment développer une vie harmonieuse avec Dieu. La semaine prochaine, on va défier la réalité de nos agendas. Et on va voir un petit peu plus de façon concrète, si on arrive, parce que c'est de l'ordre un petit peu de l'expérimental, comment rentrer dans la présence de Dieu, ce qui n'est pas toujours facile et évident pour tout le monde. Et ensuite, nous allons regarder comment déloger les obstacles potentiels à la prière. Le but de cette série, c'est de devenir plus efficace dans nos moments de prière. Et enfin, le dernier point, nous voudrions sauter du premier au cinquième, c'est-à-dire devenir toujours plus une communauté qui ouvre le ciel. Et quand on parle de prière, on pense à la puissance que Dieu est capable de faire intervenir sur la terre. Et souvent, nous voulons sauter à cette étape-là. Puis, ouais, moi, je vais être un homme, une femme qui, quand on va prier, là, ça va marcher. Là. Mais avant d'arriver à ça, il y a des étapes à suivre. Il y a des choses à considérer. Encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, soit sur Internet, bienvenue à vous qui nous suivez sur les réseaux et à nous ce matin. Un petit rappel, l'art de la prière, donc cette série, est un défi à nous développer pour devenir ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire une demeure ou une maison de prière. Attention, écrit en tout petit en haut, cette série pourrait s'avérer dangereuse pour notre confort. Vous pouvez toujours vous en aller si vous voulez. Mais une fois que c'est parti. Non, vous pouvez partir quand vous voulez. L'art de la prière. OK. J'aime beaucoup cette citation de cet humoriste, Pierre Desproges, qui a dit « Un jour, j'irai vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe bien. » J'aime beaucoup. Et parfois, il y a des aspects dans nos vies, des aspects de notre foi, où on les vit en théorie. Et en théorie, ça se passe bien. Dans les livres de théologie, ça se passe bien. Mais, comme quelqu'un d'autre l'a dit, une autre citation classique que j'ai adaptée un petit peu vers la fin, la théorie, c'est quand on comprend tout et que rien ne marche. À l'inverse, la pratique, c'est quand tout marche, mais on ne sait pas pourquoi. C'est déjà mieux, mais c'est quand même ça peut être utile de savoir pourquoi ça marche. Et la théorie, donc, c'est quand on comprend tout et que rien ne marche. Et parfois, on comprend beaucoup de choses. On a lu 1001 livres sur la prière, entendu 1001 messages sur le sujet, et on s'aperçoit que dans notre vie, ça ne marche pas toujours. À l'inverse, il y a des personnes qui ont zéro connaissance ou presque aucune connaissance des détails techniques de ce qu'est la prière, mais ils prient, puis boum, ça marche. Des fois, on vit les deux. Des fois, il n'y a rien qui marche, puis personne ne sait pourquoi. C'est ce que j'appelle la réussite de l'échec. La réussite de l'échec, c'est quand rien ne marche et personne ne sait pourquoi. Là, tu es vraiment mal, parce qu'imagine, quand ça marchait, tu ne savais pas pourquoi. Mais là, ça ne marche pas et tu ne sais pas encore moins pourquoi. C'est pire encore. Ça, c'est la réussite de l'échec. J'espère que vous avez pris votre café ce matin. Et là, je sais que plusieurs d'entre vous disent « Ah, oh, c'est samedi, on a eu dimanche. Nous, on a travaillé toute la semaine. » Mais c'est bien connu, les pasteurs, ça ne travaille pas pendant la semaine, c'est dimanche. Donc moi, c'est ma journée de travail aujourd'hui. Hein? Donc, on continue. La réussite de l'échec, c'est quand rien ne marche et personne ne sait pourquoi. Mais l'idéal, ce serait celui-ci. L'échec de la réussite de l'échec. Oh, c'est là que le café est important. Qui aimerait faire une mise en échec, échec qui mate à la réussite de l'échec? C'est un idéal. C'est quand tout marche et que tous savent pourquoi. Ça, ce serait génial. Bon, ça, c'est encore, on est dans la théorie, c'est un beau pays. Ce serait super que toutes nos prières marchent, fonctionnent, et que tous savent pourquoi ça fonctionne. On essaie de se rapprocher de cet idéal-là à travers cette série-là, mais on ne va pas l'atteindre parce qu'on est encore sur la terre, malheureusement. Et d'ailleurs, à ce titre-là, en introduction, vous l'écouterez le message, mais j'ai mentionné 4 raisons pour lesquelles la prière ne résout pas toujours tout. Vous irez voir par vous-même le premier message qui était l'introduction. 4 raisons pour lesquelles la prière ne résout pas toujours tout. En fait, après avoir dit tout ceci, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment qui puisse tomber en place dans nos esprits. C'est la pierre d'édifice à travers laquelle nous allons pouvoir construire notre vie de prière. Et on ne va pas la montrer tout de suite un instant, parce qu'elle est vraiment importante, parce que, blague à part, le fait que des prières n'ont pas été répondues est l'une des raisons de grandes blessures dans un grand nombre de personnes chrétiennes. Une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens passent de l'état bouillant à un état de tiédeur et voire même se refroidir, pas tous, mais une des raisons principales, quand on commence à fouiller un petit peu l'historique de vie, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une blessure sur le fait que je m'attendais à ça de Dieu, puis j'ai eu ça. Je m'attendais à ça de Dieu, puis j'ai eu ça, j'ai eu zéro. Puis là, c'est ça Dieu. Et beaucoup, on sait que Dieu est vivant, et beaucoup, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à aller à l'église, à vivre notre foi dans notre quotidien, dans notre famille, mais on a perdu des plumes. On croit toujours en Dieu, ça ne remet pas en question notre foi en Dieu, mais on perd de la force, on perd de la ferveur, parce qu'il y a une blessure, une incompréhension. Il y a quelque chose qui a été brisé en dedans. Et puis ça, c'est important. Ce que je vais dire maintenant, ce qui va suivre présentement, est vraiment important pour la suite. Nous voudrions ouvrir le ciel par nos prières. En tout cas, moi, c'est mon désir. J'espère que c'est un désir qui est partagé. Mais avant d'ouvrir le ciel, eh bien, on a besoin d'apprendre à ouvrir notre cœur à Dieu. Notre cœur à Dieu. Voici la pierre d'édifice qui est vraiment importante. La prochaine. La prière ne se résume pas à obtenir des choses de la part de Dieu, mais surtout à accomplir les choses que Dieu désire de notre part. Je vous laisse la relire. Je vais la relire. La prière ne se résume pas. Alors oui, il y a une partie de ça, c'est pour ça que je ne se résume pas. Je ne dis pas qu'elle n'est pas ça, ce n'est pas l'objectif. La prière ne se résume pas à obtenir des choses de la part de Dieu, mais surtout à accomplir les choses que Dieu désire de notre part. De cette façon-là, on ne voit plus la prière comme une machine à obtenir des bonbons, si vous me permettez l'expression, mais on voit la prière comme un moyen d'être en phase, en harmonie avec Dieu. Et dans la prière du Notre Père, même si ce n'est pas un message concentré sur cette prière-là, je n'ai pas le choix de faire des allusions à cet aspect-là. Ça commence, entre autres, les premières « Que ta volonté soit faite ». Lorsque tu commences à prier, lorsque nous commençons à prier, eh bien, nous sommes de plus en plus en mesure d'accomplir les choses que Dieu désire voir prendre place dans notre vie. Beaucoup plus qu'une recherche d'obtenir quelque chose. Alors dans ce message, je vous propose non pas d'aller vivre en théorie, mais le titre du message, c'est « Vivre en harmonie ». Je vous propose de vivre en harmonie. En harmonie, l'harmonie, c'est vraiment un super beau nom, un beau terme. Vous savez, on sait tout ce que c'est. C'est plusieurs sons différents mis ensemble qui composent quelque chose d'agréable à l'oreille. Combinaison de sons simultanés. Quelqu'un dans le fond de la salle pourrait gratter sur les chaises en arrière. Quelqu'un d'autre pourrait faire « ouh, 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 ouh ». Un autre pourrait faire un claquement avec la langue. Et ces sons, même pris à part, isolément, ne sont en eux seuls pas forcément des sons qui sont agréables à l'oreille, mais pour quelqu'un qui est capable, pour un chef d'orchestre expérimenté, d'ailleurs, c'est une bonne idée, les jeunes, si vous avez une idée, ça existe déjà, vous pourriez vous amuser à le faire et faire une présentation, pourquoi pas, un dimanche matin, mais ça se fait, apprendre de plusieurs sons tapés sur un seau, et lorsque les orchestres de la bonne façon, le même son qui n'était pas agréable à l'oreille, prend un ensemble, une harmonie extraordinaire, et ça devient un vrai concert, c'est magnifique. Un vrai concert. Et évidemment, l'harmonie fait allusion clairement à le fait d'être en paix, il y a cette quiétude, d'être en accord. Et j'aimerais nous proposer de vivre en harmonie, en accord avec Dieu. On le définit aussi, l'harmonie, comme étant une relation idéale entre plusieurs parties d'un tout qui donne à l'ensemble son équilibre, sa beauté et son unité. L'art de la prière, c'est aussi justement l'art de vivre en harmonie avec Dieu. Autant comme individu que comme communauté, de vivre en harmonie avec Dieu, en accord avec Dieu. Je l'ai mentionné à un moment donné à propos de cette série, la prière est avant tout un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. Et avant de vouloir faire en sorte que les cieux s'ouvrent, on a besoin d'apprendre à être, à découvrir notre identité en Jésus, vivre en harmonie. Le texte de ce matin. Voici donc comment vous devez prier. Les disciples arrivent, ils demandent « Explique-nous comment ça marche, Seigneur. » On voit que quand tu pries, ça fonctionne. Apprends-nous à prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On va s'arrêter là ce matin, ça va être le seul verset de la matinée. Pas besoin d'aller plus loin. Comment devons-nous prier? Voici comment vous devez prier. Et dans ce comment, en fait, il est en train de dire surtout à qui? À qui est-ce que vous devez prier? Et ce texte-là, il est court, hein? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Parmi les millions de personnes qui récitent la prière du Notre Père à travers la planète, nous serions surpris du pourcentage de gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Nous serions surpris, même parmi ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, qui ont une expérience avec Jésus, du nombre de personnes qui perçoivent Dieu comme leur Père. Beaucoup de gens, notre Père qui est aux cieux, dans les cimetières, peut-être pas dans les mariages, parce que, bon, dans les funérailles, dans les occasions d'inter-église, œcuménique, à différentes occasions, c'est la prière qui rallie tous les croyants du christianisme. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Eh bien, nous serions surpris du nombre, du pourcentage qu'il y a sur les millions de personnes qui récitent ces prières-là, qui n'ont zéro relation ou presque aucune relation avec Dieu. Et pour ceux qui en ont une, combien parmi eux considèrent Dieu comme leur Père? Et ma question est, comment perçois-tu Dieu? Comment perçois-tu Dieu? En fait, la prière du Notre Père, ça pourrait être la prière de l'harmonie. Il s'adresse à ses disciples, c'est les disciples qui leur demandent, enseigne-nous. Il dit, voici, notre Père. C'est comme cette rentrée. Ok, c'est comme si Jésus était là, puis il dit, ok, les amis, vous allez prier notre Père. Et chacun, en fait, avec le son de sa voix, avec ses imperfections, avec son passé, avec ses particularités, belles, très belles, laides, extrêmement laides, ensemble, notre Père. Pris isolément, ça a un son, mais ensemble, c'est, waouh, une belle harmonie. Évidemment, je mentionne simplement que la prière est importante au niveau individuel, mais est importante au niveau communautaire. Notre Père, notre Père, notre Père. Jésus est en train de dire, je suis votre frère. C'est curieux parce qu'il aurait pu commencer en disant, ça c'est vraiment les deux premiers mots, notre Père. Voici comment notre Père. Il aurait pu dire, voici comment vous devriez prier. Ô toi, redoutable Dieu éternel, trois fois saint, redoutable parmi les nations. Non, non. Juste notre Père. Waouh. Extraordinaire. Et si je ne vais pas plus loin, dans ce verset-là, c'est parce que juste là, il y a déjà beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre une harmonie, à rentrer en harmonie avec Dieu à cause d'une perception négative, fausse, erronée de Dieu. Puis on ne peut pas aller plus loin. J'aimerais vous proposer les trois ismes qui nous empêchent de vivre en harmonie avec Dieu. Les trois ismes qui nous empêchent de vivre en harmonie avec Dieu. Le parasitisme, le parallélisme et le patriotisme. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment pas compliqué, on va simplifier ça au maximum. Le parasitisme, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une relation biologique entre deux êtres vivants. Et parmi ces deux êtres-là, il y a un protagoniste, un acteur principal qui va prendre le dessus. Cet acteur principal s'appelle le parasite. Et la particularité de ce parasite, c'est qu'il tire profit de l'organisme hôte pour se nourrir, se loger et pourquoi pas même se reproduire. Et pour appliquer ça à nos vies, le parasitisme nous empêche de vivre en harmonie avec Dieu. Il y a des parasites dans nos vies, j'en mentionnais un en particulier, on aura l'occasion plus tard, à d'autres moments, de vraiment... Il y en a beaucoup des parasites dans nos vies qui nous empêchent d'être en harmonie avec Dieu, mais pour rester dans notre sujet du Notre Père, il y a dans la vie de certaines personnes des parasites, des souvenirs du passé, des expériences vécues avec ton père ou tes parents en général. Et pour certains, c'est conscient. La plupart du temps, c'est souvent inconscient. Là, on est plus dans un volet psychologique, mais c'est quand même ça. Beaucoup de personnes, même des gens qui en sont même conscients, vont me le dire. Écoute, moi, je ne peux pas voir Dieu comme un père parce que si tu connaissais mon père, si tu connaissais mes parents, si tu connaissais ma mère. Il y en a qui sont carrément pas conscients. Il y a des personnes qui sont en cheminement spirituel, qui n'ont pas encore fait le saut de la foi, de dire « Ok, je veux vraiment offrir ma vie à Jésus, je veux vraiment qu'il fasse partie de ma vie » et n'osent pas parce que l'image de Dieu est faussée par une éducation qui conditionne nos comportements et nos réactions dans la vie de tous les jours. Et des fois, c'est inconscient. Et ça, c'est comme des parasites qui se grèvent dans tes pensées, qui s'incrustent dans tes émotions. Et même si c'est inconscient, elles sont là. Elles se disent, non, 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 notre Père, rappelle-toi du Père que tu as eu. Tu veux vraiment faire confiance à un Dieu comme ça, qui veut être ton Père? Et c'est inconscient, mais c'est là. Et ça, c'est des parasites. C'est un passé qui vient te hanter. Une éducation, alors ce n'est pas le cas de tous, mais de plusieurs, de beaucoup. Une éducation qui vient te hanter. Et il y a beaucoup de gens, peut-être que c'est ton cas ce matin, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est peut-être ton cas, toi qui m'écoutes sur les réseaux ou aujourd'hui dans ce lieu. Et beaucoup de personnes veulent, même des personnes chrétiennes qui ont fait le pas, et dans leur vie, il y a comme un mur. Ils n'arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à franchir ce... Pourquoi? Parce qu'il y a un parasite qui s'est logé, qui se nourrit de ton organisme, qui se loge, puis à la limite se reproduit, n'arrête pas de... C'est comme une sangsue qui pompe ton énergie, et toute l'image que tu as de Dieu est brisée. T'aimerais t'abandonner, mais tu ne peux pas, parce que t'es blessé en dedans, parce que t'es brisé en dedans, parce que t'es abusé. J'aimerais te dire que lorsque Jésus dit, voici comment vous devez prier, notre Père, j'aimerais te dire que le notre Père du Jésus n'a rien à voir avec le Notre Père terrestre que nous avons ici connu. Le Notre Père de Jésus n'a rien à voir avec le Père que tu as pu peut-être connaître ou les parents que tu as pu peut-être connaître ou les parents dont je suis moi-même pour mes enfants. Rien à voir. À mes propres enfants, j'aimerais leur dire, le Dieu que je suis, le Dieu que je t'encourage à suivre est un Père, mais il n'est pas le Père que tu connais en moi. Il n'est pas celui qui peut te décevoir. Le Père dont Jésus nous parle et que j'aimerais qu'il puisse être révélé ce matin n'est pas ce Père qui t'écoute d'une oreille et regarde ailleurs pendant que tu lui parles. Lorsque tu lui parles, tu captes toute son attention. Il dit « Notre Père », il s'arrête, il ne regarde que toi. Il peut y avoir des 7 milliards sur la planète ou plus ou moins, mais il n'y a que toi qui compte à ce moment-là. Il n'est pas celui qui te regarde d'un œil et puis t'écoute d'un œil et regarde ailleurs. Il n'est pas ce père qui va dilapider sa fortune et laisser sa famille crever de faim parce qu'il gaspille son argent dans la loterie ou les jeux du hasard. Et si c'est le cas de certaines personnes où on est prise avec des addictions et des jeux du hasard, il n'y a pas ici de pensée, d'allusion à une condamnation. Ce que je suis en train de dire ici, c'est le rôle du père versus sa famille. Si tu es pris avec ça, le Seigneur peut changer ton cœur et t'amener à vivre une vie centrée sur Dieu et productive. Il n'y a aucune condamnation. Nous avons tous nos parasites. Sois rassuré. Le Notre Père dont Jésus nous parle n'est pas ce Notre Père lorsque tu arrives à la fin de ta période scolaire avec un bulletin à 98% et que ton père il dit « Ouais, sérieux, tu aurais quand même pu faire 100. » Ou « C'est jamais assez. C'est jamais assez bon. C'est jamais assez excellent. C'est jamais assez parfait. » Ce n'est pas de ce Notre Père-là que Jésus nous parle. Le Notre Père dont Jésus nous parle est un Père qui dit « Mon devoir, viens tel que tu es et moi j'ai marqué les notes pour toi. » Et je vais t'applaudir pour chaque progrès que tu as fait, même si c'est un 0,0.1%. Tu feras la joie de mon cœur. Ce n'est pas ce Père, ce n'est pas le Père que nous avons connu. Alors je t'encourage, ne laisse pas place à ce parasitisme, à ces parasites de ta vie. Et c'est facile à dire. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous l'expliquer, le partager. Il y a toute une dimension où vous êtes appelés, nous sommes appelés à l'expérimenter. En disant, Seigneur, viens guérir mon cœur. Ça, moi, je ne peux pas le faire. Je sais qu'il peut le faire, mais je n'ai aucun pouvoir. Je peux vous aider, il y a des psychologues, des pasteurs, des experts qui peuvent même vous mettre sur des pistes à travers la relation d'aide, à travers toutes sortes de... Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui doit venir d'en haut, qui guérit parfaitement et complètement. Il n'est pas ce père abusif qui cherche à avoir une emprise sur sa famille, qui cherche à avoir une emprise sur ses enfants à travers toutes sortes de manipulations psychologiques, mentales, etc., des abus psychologiques. Il n'est pas ce père-là. Quand je t'invite à t'abandonner dans les bras de Jésus, ce Jésus qui dit, lorsque vous priez à Dieu, dites « Notre Père », il te parle d'un Père qui a toute ton attention, qui a donné sa vie pour toi, qui ne dilapide pas sa fortune pour que tu n'aies rien à manger sur la table. Au contraire, il s'est donné, il a donné tout ce qu'il avait, mais tout et au-delà de ce qu'il avait pour pouvoir nourrir ta vie spirituellement, physiquement et émotionnellement et à tout point de vue. Vous allez dire « Ah ouais, même physiquement, ouais, Dieu pourvoit à sa façon aussi ». Ça, c'est un autre sujet, on aura l'occasion, mais ne nous éloignons pas. C'est de ce Père-là que je te parle. Moi, je prie qu'on puisse toujours plus grandir en harmonie avec Dieu, parce qu'en vous disant ça, je l'ai dit au début, mais encore une fois, je ne suis pas en train de prétendre que moi, j'ai découvert l'harmonie parfaite avec Dieu. J'ai encore tellement de chemin à faire, comme l'apôtre Paul, il dit... tellement imparfait, mais je continue à courir. C'est mon but. Fait que si dans la poursuite de mon but, je m'aperçois qu'il y a un parasite, OK, je m'arrête, on règle le parasite, on prend du temps parce que ce que je veux, c'est être toujours plus proche de Jésus. Le deuxième isme, c'est le parallélisme. Et là, je veux parler du parallélisme dans le sens négatif du terme. Je ne parle pas du parallélisme positif que l'on retrouve dans une voiture qui permet de bien fonctionner parce que les roues sont... Il y a un bon parallèle, elles s'usent de la bonne façon, de façon équilibrée. Je ne parle pas de ce parallélisme-là. Là, ici, je veux parler d'une vie en parallèle. D'une vie en parallèle. S'il y a des personnes... qui vivent leur vie en parallèle de leur foi. Il y a des personnes qui sont dans un cheminement spirituel, encore une fois, n'osent pas faire le pas pour s'abandonner dans les bras du Seigneur, mais vivent en parallèle. Tant et aussi longtemps que nous avons une vie en parallèle de notre foi, nous ne goûtons pas à la pleine plénitude, je fais exprès de dire, qu'on saisisse à la pleine plénitude de l'amour et de la présence de Dieu. Il y a des gens qui vivent en axe avec Dieu, il y a des gens qui vivent en parallèle avec Dieu. Il m'a fallu 20 ans absent de l'Europe et de Genève en particulier pour réaliser à quel point conduire dans la ville de Genève, c'est une folie. J'en ai vu des villes. Je ne dis pas que c'est la pire, mais pour moi, elle est dans les top scores de « faut que tu connaisses la ville de Genève ». Ma femme, d'ailleurs, petite anecdote, elle commençait à prendre ses repères. « Ah ben c'est bon, là, je sais maintenant pour aller de ce point-là, c'est ce trajet que je prends là. Yes, c'est bon. Reviens là le matin, travaux, c'est plus là, faut que tu fasses. Ah !» Bon, Ça, c'est une autre histoire. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des tronçons, c'est pas seulement à Genève, mais je parle de ce que je connais, il y a des tronçons de circulation à Genève que si tu connais pas, tu roules en parallèle à côté, tu es en train de suivre un ami ou la voiture d'à côté à droite ou à gauche, peu importe, étant sûr que tu vas aller dans la même direction tout droit, et jusqu'au moment où tu arrives, tout d'un coup, ça m'est arrivé, là, tu as la voiture, tu sais, bon, on est sur, en plus, je suis sur ma droite, tu es à gauche, donc moi, on va tout droit, Et continue, puis moi, je n'ai pas le choix de tourner. Ligne blanche, trafic partout. Je ne peux plus me rabattre. J'étais sûr que je le suivais. J'étais sûr que j'allais dans la même direction. Mais je n'allais pas dans la même direction. En bout de ligne. En apparence, j'allais dans la même direction. J'étais en parallèle. Beaucoup de personnes suivent Dieu en parallèle, pensant que c'est suffisant. Mais font fausse route. Impossible de venir dans la même église, d'assister aux mêmes événements, aux mêmes chants, aux mêmes activités intérieures ou extérieures. On est en parallèle, de la même façon que la configuration de la salle est présentement là. Il y a deux voies parallèles, deux couloirs, puis il y a deux sorties. Alors l'exemple se limite à la sortie parce qu'en bout de ligne, on se retrouve à la même place. On est d'accord, vous comprenez, c'est juste une image. Et en apparence, oh ben, je peux marcher avec quelqu'un, puis ça va bien, elle est bonne la musique, ah ouais, c'est bon. Puis, t'as vu, est-ce que tu connais un tel? Oui, je connais bien, je suis même allé manger. Ouais, je suis allé manger hier chez elle, c'est super, ouais, génial. Puis, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Ouais, il y a ça. Ah, au fait, n'oublie pas, l'église est fermée. Il y a une vie en parallèle, et à un moment donné, à la fin, ce qui va se passer, il y en a un qui va être dans l'axe, puis l'autre qui ne sera pas dans l'axe. Quelle tragédie! Ça, il faut que tu connaisses la circulation pour le savoir. Il faut que tu connaisses la Bible, il faut que tu saches que ça existe. Ça peut être évité quand c'est plus ignoré. Parfois, dans notre foi, on peut être dans l'axe, mais des fois, moi, il m'arrivera certainement encore de dire « Oh, je suis plus en phase, là. » Là, je ne parle pas de perdition éternelle. Je parle juste « Je suis plus en harmonie avec Dieu. » On peut être pasteur et vivre en parallèle avec Dieu. Ou le livre, cette Bible, peut devenir un outil de travail, mais ce n'est plus le livre qui parle à ta vie, qui change ton cœur, qui transforme ton cœur. C'est dangereux de vivre en parallèle. C'est une circulation, ce n'est pas grave, tu retrouves ton chemin, mais même là, des fois, tu as un rendez-vous, tu peux même manquer ton rendez-vous de 15 minutes parce que tu as pris la mauvaise voie. Ça sent le vécu, là. Mais il y a des moments dans la vie, tu dis, « Oh, je ne suis plus en phase. » Assez récemment, il y a un jeune qui m'a appelé et qui n'est pas de cette église, sinon je ne me serais pas permis de le mentionner. Phil, écoute, voici, je suis tombé, j'ai chuté, j'ai fait quelque chose qui est vraiment grave devant Dieu. Penses-tu que Dieu pardonne? Ok, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Dieu pardonne, mais raconte-moi. Je commence à me raconter. J'écoute, Dieu va pardonner. Je dis, mais là, il faut que tu comprennes une chose. Je peux te le prophétiser, là, façon de parler. Ça va se reproduire tant et si longtemps que tu ne feras pas le choix de vivre en axe avec Dieu. Parce que là, tu t'es mis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tu t'es mis dans une situation où tu as beau prier, demander, chercher, tes pulsions naturelles seront plus fortes. Tu es un être humain. Ça, c'est comme la personne qui dit « Moi, je suis allergique au soleil, mais quand il sort dehors, ne mets pas de casquette, ne mets pas de crème à bronze protectrice. » Il dit « Mais moi, j'ai prié, mais le soleil... » Alors bon, là, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne fait pas des miracles. Vous comprenez ce que je veux dire. Encore une fois, c'est une image. Mais si tu sais que le soleil va te faire mal, à la limite, éloigne-toi. Au mieux, mets de la crème ou quelque chose, mais idéalement, cherche les zones d'ombre. Je dis « Mais tu n'es pas en phase, là. » Son cœur est sincère, son cœur aime Dieu. Il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. Son cœur aime le Seigneur. Il dit, je veux suivre. D'ailleurs, il ne m'aurait pas appelé si ce n'était pas le cas. Je veux suivre Dieu, mais je ne comprends pas. Est-ce que Dieu pardonne? Oui, Dieu pardonne. Mais Dieu a plus que le pardon. Dieu a une liberté complète et totale pour ta vie. Mais pour ça, il faut que tu rentres dans l'axe, que tu te mettes dans l'axe. Et là, tu vas goûter. J'aimerais dire, choisis, pour ceux à qui seraient concernés par cette réalité de vie, choisis de suivre Dieu et non de longer Dieu, comme on longerait une rivière. Je peux suivre la rivière, sentir l'eau, l'odeur de l'eau, sans même avoir des, c'est une cascade, avoir des gouttes d'eau qui, mais tant que je ne plonge pas dans la rivière, je ne connais pas le bienfait qu'il y a à juste plonger dans la rivière. C'est une chose de suivre une long, de longer une rivière, c'est autre chose d'être dans l'axe de la rivière. Yes, sir! T'es dans le courant, dans le bon sens, cette fois-ci, un bon courant qui t'amène à découvrir plein de paysages. Plonge dans la présence de Dieu. Abandonne-toi. Ce n'est pas un père qui veut t'abuser. Abandonne-toi. Arrête. Arrêtons de vivre en parallèle. Et du moins, pourtant, tu nous parles de la prière. Oui, parce que si nous voulons être de ceux et celles qui vont ouvrir un ciel, eh bien, nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs. Pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers un canal, il faut que ce canal soit littéralement plongé. Ou plus on sera plongé, plus sa vie va couler à travers nous. Moi, je veux pas juste longer Dieu. Alors, il y a des fois où je sors de la rivière. Ah, on a eu les baptêmes la semaine passée, c'est comme le vieil homme, il veut ressortir, tu vois. C'est pas agréable de renoncer à ses choix, à ses volontés. Et des fois, je m'arrête. Et c'est là la nécessité de connaître mon Dieu, de connaître sa Bible, ses principes de vie. Là, je regarde, en mise à jour, OK, on est au GPS. Oh, on s'écarte. Ou quelqu'un me dit à Philippe, là, t'es en danger. OK. Là, non, écoute. Là, la façon que tu penses, là, je veux suivre dans l'axe. Et je vais terminer avec ce dernier point. Le patriotisme, rassurez-vous, je ne parlerai pas de politique, il y en a assez comme ça tous les jours, et ce n'est pas le rôle d'un prédicateur, un pasteur, du tout. Il n'y a rien de mauvais dans le patriotisme en soi. Mais ici, je veux simplement relever le fait suivant. Le patriotisme, c'est quoi? C'est le dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Et le patriotisme, je précise maintenant, terrestre, fait partie de ces ismes qui nous empêchent d'être en harmonie avec Dieu. Et là encore, et attention, là je ne vais pas parler... Pour pas que ce soit mal interprété, je ne veux pas parler ici, il n'est pas question de nous désengager de nos responsabilités humaines et civiles. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, je ne suis pas en train de dire, on est chrétien, donc maintenant on appartient, notre vie est essentiellement, on l'a chanté ce soir, tout à l'heure, on a chanté, notre patrie est au ciel, je ne sais plus comment est-ce que ça a été formulé, mais ton règne est dans les cieux. D'ailleurs, la prochaine diapo, d'ailleurs, on va juste rester sur la prochaine, voilà, on aurait pu rester là, c'est bien. Notre Père qui... est aux cieux. Pas question ici de dire, moi je suis chrétien, donc j'ai plus de responsabilité civile en tant que citoyen parce que je suis chrétien, puis je suis une nouvelle créature, puis Jésus m'a changé, transformé. Non, c'est pas du tout de ça qu'il est question, absolument pas. Là, je parle ici du danger qu'il y a lorsque notre dévouement pour la terre patrie, est plus forte que notre allégeance céleste. C'est de ça que je veux parler. Lorsque notre dévouement pour la terre est plus forte que notre allégeance céleste, c'est difficile d'être en harmonie avec Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on vit notre vie comme si tous nos investissements, tout le fruit de notre travail se limitait à ce moment T de la terre. Autrement dit, je crois qu'on a besoin, pour plus on réalisera, plus on vivra notre vie à la lumière de l'éternité et plus nous serons en harmonie avec Dieu. Parce que ça veut dire que, ça veut dire que si je fais un choix, je ne pense plus aux plaisirs immédiats, aux avantages immédiats que je vais vivre ici-bas sur cette terre. Des fois, c'est des bonnes choses, ce n'est pas que des mauvaises. Là, je suis en train de dire, c'est dur, mais ultimement, ma patrie, ma vraie patrie, est au ciel. Ça veut dire que quand je souffre, moi, je souffre, mais j'ai une consolation extraordinaire parce que je sais que c'est un moment qui va passer, puis je vais finir mes jours pour l'éternité dans la présence de Dieu. Ça veut dire que mes priorités de vie changent. Ma façon d'anticiper la vie change. Je la vis plus uniquement comme une vie limitée à cette terre-là, mais je la vis, OK, par rapport à l'éternité, est-ce que ça compte? Et parfois, on se fait du souci, nos soucis prennent... Nos inquiétudes prennent une telle ampleur, puis là, je ne suis pas en train de minimiser, il y a des soucis, il y a vraiment des vraies situations difficiles, ça, on en est conscient, ce n'est pas ça que je parle, mais parfois, nos inquiétudes prennent une telle ampleur dans nos pensées que c'est comme si on avait oublié que notre vie se résumait à ça. Mais quand tu prends tes soucis, tu dis, attends, Seigneur, je les prends, j'ai mal, mais notre Père qui est aux cieux, qui surplombe tout, ce Dieu qui surplombe, qui connaît tout, ce Dieu qui est aux cieux, qui a des ressources que nulle part sur la terre tu pourras trouver, elles sont en Dieu. Et là, on commence à avoir une prière qui commence à être lourde positivement. Notre Père qui est aux cieux. Et là, il y a la foi commence à se réveiller. Oh, il est aux cieux. Il n'est pas à mon niveau. Il est aux cieux. On l'a chanté. Il est le roi des rois. Oh, là, tu réalises, ma vie n'est plus uniquement. Je ne suis plus simplement un simple patriote terrestre, mais je suis un citoyen céleste. Notre Père, j'ai un Père qui m'aime. J'ai un Père qui est aux cieux. J'ai un Père qui connaît, qui comprend, qui peut agir. Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Et là, il continue. Mais encore une fois, je reviens. La prière ne se résume pas à obtenir, mais surtout à accomplir ce que Dieu veut faire à travers nous. Alors, je termine en posant simplement cette question, ou ces questions. Est-ce que nous sommes, simple question, quel est le degré de notre harmonie avec Dieu? Là, j'ai mentionné trois « is », mais il pourrait y avoir d'autres choses qui nous bloquent. Et si quelque chose que l'on sait, Seigneur, je te l'apporte. Je te le donne. Guéris. Moi, je ne te vois pas comme un bon père. Là. Je te vois comme un père, mais un père fouettard. Viens guérir mon cœur. Guéris-moi de ces parasites. Changement de rôle. Reprends ton rôle d'acteur principal. Œuvrant avec Dieu. Ne laisse pas un parasite prendre le rôle de l'acteur principal qui suce ton énergie. On est dans le parallèle. Changement de voix. C'est le temps, tu peux changer de voix. Change de voix. Mets-toi en axe. Mettons-nous en axe. Recherchons sa présence. Patriotisme, changement de vue, changement de perception. Plutôt que de voir notre vie comme résumée à un espace-temps de limité à 80, 90 ans et 95, 98 peut-être, je ne sais pas. Mais Seigneur, je veux changer de vue, ma façon de voir. Je veux voir ce Père qui est aux cieux. Je veux voir que ma vie va, en bout de ligne, va se poursuivre, pas se finir, se poursuivre dans la présence de Dieu. Ça va? Notre Père qui est aux cieux. J'aimerais inviter les musiciens à venir nous rejoindre. Qu'on puisse simplement chanter, si vous avez un chant, qu'on puisse simplement, alors qu'on arrive à la fin, soi-même devant le Seigneur, dire « Seigneur, où j'en suis avec dans mon harmonie, dans mon accord avec toi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait mal? Je vais sortir de ce lieu avec, on a chanté, je vais sortir de ce lieu avec, Seigneur, j'ai changé de voix. Je vais sortir de ce lieu, je suis avec toi, je suis dans la rivière. On l'a chanté tout à l'heure, je vois une génération qui se lève, une génération qui place sa foi en Jésus, une génération qui cherche à être en accord avec ce Dieu et Père. Yes? Je laisse la place à nos musiciennes. premier chapitre de Jean nous dit que ceux qui placent leur foi dans ce Jésus qui est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, que ce Jésus-là a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. La parole de Dieu, celui qui est devenu le Verbe incarné, lorsqu'on place notre foi en lui, eh bien, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la première étape. Tu ne peux pas chanter « Notre Père » si tu n'es pas devenu un enfant de Dieu. Ma prière, c'est que vous puissiez, cette année, on se le dit, un pas à la fois. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a plusieurs sentiments qui sont là. Fais juste un pas. Moi, ce que je nous invite, c'est simplement ce soir, cet après-midi, quand tu peux, prends un temps, que ce soit à genoux, dans ta chambre, que ce soit assis dans ta voiture, que ce soit dans une marche en forêt, prends un temps, puis dis, expose ton cœur. Expose ton cœur, tes sentiments, à ce Dieu qui veut devenir ton Père, ce Dieu qui est ton Père, qui est notre Père. Il y a des choses qui vont prendre place, des guérisons qui vont commencer, des processus de guérison qui vont commencer à prendre place. Ça va? Alors, quelques annonces pour terminer. Donc, on a notre rendez-vous de prière à 20h30 ce mardi 26 février. Donc, c'est un temps de prière. Le 28, il y a bien la chorale, hein? C'est bien ça. Donc, la chorale à 20h, si je ne me trompe. Femmes Club, 4 mars, ça tient toujours? 4 mars, 14h, tu viens de te rappeler qu'il y a un Femmes Club. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur l'agenda. Le 17 mars, prenez note de cette date-là, il va y avoir plusieurs cultes témoignages des futurs membres. Vous savez qu'à l'église de CEP, du CEP, lorsque quelqu'un veut devenir membre, bien, il communique, il partage son témoignage. Donc, il va y avoir des témoignages de ceux et celles qui désirent devenir membres de l'église. Ce qui nous amène à une annonce importante, mardi le 19 mars. Mars à 20h, c'est notre assemblée générale. Assemblée générale, je n'ai pas mentionné la jeunesse, mais il y a aussi la jeunesse samedi, la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, ne manquez pas ces super soirées que vous avez entre vous. Donc, c'est pas mal tout pour les annonces. On m'a mentionné aussi, n'oubliez pas, pour les jeunes, parler de la jeunesse, il y a un cahier, Ta jeunesse. C'est vraiment Ta jeunesse, tout simplement. Vraiment, il est vraiment bien. Cette revue est super. Oui. 11 mars. Alors, Femme Club, 11 mars. Bon, on est en avance dans les annonces. Excellent. 19 mars, Assemblée Générale. Alors, on n'oublie pas, un pas à la fois, tranquille. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Bonne journée à tous. Bon après-midi.